lives.
Des débats.
Des interviews.
Des tranches de rire.
De l'émotion.
Des découvertes.
C'est
Radio
Esperanza. Branchez-vous.
Bonjour, c'est Lisette, il est 17h35, nous sommes à Fleuref en direct du Festival Esperanza. Vous nous écoutez sur radio.esperanza.be, c'est la dernière de Possible, notre Possible QV 2015, puisqu'on est dimanche, on est au cœur du village des Possibles, je suis accompagnée de Camille pour animer cette heure d'émission. Bonjour Camille.
Bonjour Lisette.
Oh, tu as le cheveu fou, tu as le cheveu très fou, comment ça va Camille aujourd'hui?
Ça va, un peu fatiguée comme tout le monde je crois, après ces trois jours de fête et de discussion, mais ça va aller.
D'accord, c'est possible que tu fasses quand même l'émission ?
Ça va être possible, oui. Et maintenant, le jingle.
Mon petit lapin, j'aime tes grandes oreilles, tes petites quenottes et ta queue en pompon.
Mon petit lapin, à notre monde, possible, notre possible.
Mon petit lapin, tu es mon seul ami, tu ne me dis rien, mais je sais que tu m'aimes aussi.
Dimanche matin, il est 11h, le village des possibles ne s'est pas encore éveillé, nous non plus d'ailleurs. On profite du silence, allongé sur un banc, la tête dans les arbres, on ferme les yeux, on les ouvre, on les ferme. Il fait bon, on est heureux, fatigué mais bien vivant, on est toujours à Esperanza. Eso, l'Esperanza, l'ultimo que se pierde. Ces envies, ces voix, ces mains qui s'activent, se lient, relient les luttes et les alternatives, elles nous font du bien, elles nous donnent de la force, alors tout deviendrait possible. Mais possible or not possible, des rues sans soldats, des hôpitaux à la place des avions de chasse, des festivals pour remplacer les guerres, du durable pour les pays en développement, des radios indépendantes ou communautaires pour faire entendre d'autres voix, raconter une autre version de l'histoire qu'on nous rabâche en permanence. Eh bien ça, on en parle pendant une heure d'émission avec Samuel de la Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Ça va ?
Bien, merci.
À côté de Samuel, nous avons Laura.
Non, c'est Paola.
Paola.
Pardon. Oui, c'est le troisième jour d'émission. Voilà. Donc Paola qui nous vient du Mouvement de Solidarité Internationale Anti-Impérialiste, qui est l'INTAL, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est bien ça. Voilà.
Et nous aurons également Élodie qui nous accompagne pour présenter cette émission.
Bonjour, merci de m'accueillir, Camille.
Bonjour, Élodie. Élodie qui fourmille pas mal dans le village des possibles, donc du coup voilà. Qui est un peu connectée avec différentes assos, qui fait des petits reportages et elle viendra nous présenter un reportage tout à l'heure.
On va écouter
avec
ça
plaisir.
À la fin. Et nous avons également Moa du Moa Sound System, Mamcher, pardon, de Moa Sound System, qui lui est avec Laure. Bonjour.
Bonsoir.
On a aussi Guillaume du Festival en République démocratique du Congo.
Ça, on en parlera un petit peu plus tard, ça va être très intéressant aussi, sur un festival qui se déroule à Goma.
Et puis on a Aurore qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur cette heure d'émission. Bonjour Aurore.
Bonjour Élise.
Ça va ?
Ça va ?
Ouais.
Je m'impatiente d'être en deuxième partie là, pour parler un peu avec Guillaume, Alfred, René, de tout ce qui se passe à l'étranger pour nos festivals frères.
Moa Sound System, c'est quoi les copains ? Moa Sound System, alors il faut s'approcher bien du micro pour causer.
Oui.
C'est quoi le Moa Sound System ? On a découvert avec les percussions un petit peu en bas, dans le village. Si tu peux nous raconter un petit peu, Mamcher, déjà, ce qu'est le collectif.
Oui, au fait, Moa Sound System, c'est un collectif d'artistes basé sur Liège et un peu partout en Belgique. Et à la base, on est tous des artistes depuis le pays d'origine. Et on est venu ici en tant qu'immigrés, certains comme volontaires ou bien ils sont venus comme des artistes participant à des concerts et puis ils ont préféré rester. Comme ça, on a, c'est un collectif d'artistes quoi. Certains artistes aussi sont des instituteurs dans certaines écoles aussi. Donc voilà, c'est ça Moa Sound System. Et à l'intérieur aussi, il y a des chanteurs, des guitaristes, des percussionnistes et tout. On a un groupe de musique à l'intérieur, on fait du Sound System et on anime aussi une émission à 48 FM tous les mercredis de 16h à 18h. Vraiment, Moa, c'est un label quoi. C'est un label plein de.
C'est quoi qui fait la particularité du collectif d'artistes ? Est-ce que c'est le type de musique ? Est-ce que c'est parce que vous êtes plus ou moins tous originaires d'Afrique ? Est-ce que c'est la manière de jouer ou de penser la musique ? C'est quoi qui fait votre collectif, la base ?
Oui, à la base, le collectif est fait d'une même... Parce qu'on est tous porteurs d'une même philosophie, parce qu'on vient tous d'une même région. On a tous cette philosophie de Baïfal, parce qu'on est tous des Baïfal. Au fait, les Baïfal, c'est une communauté de Rasta qui sont au Sénégal et qui sont vraiment des porteurs de voix, de paix. Ils sont connus pour ça, pour être des gens très intègres et qui sont de l'autre côté de la société, qui se donnent tout le temps. Et nous, on appartient à cette famille des Baïfala au Sénégal. Et cette philosophie-là, on la partage, quoi, parce que la philosophie Baïfala, c'est partager. C'est tout le temps partager, partager tout, vivre en communauté. Et on partage déjà ça. Notre idéal, quoi, de base.
D'accord. Oui. Toi, tu fais quoi dans le collectif ? Tu es artiste ?
Oui, je suis artiste. D'accord. Et je m'occupe un peu de d'autres trucs aussi. Je travaille à côté aussi.
D'accord. Oui. Et toi, alors, en fait, du coup, qu'est-ce que tu fais dans ce collectif ?
Moi, je ne suis pas artiste. Donc, c'est plus tout ce qui est secrétariat, promotion du projet. Ça dépend, en fait, un peu ce qu'il y a à faire sur le moment. Oui. Mais c'est vrai que moi, je m'y suis rattachée par la suite. La philosophie, je la partage sans être originaire de la région du Sénégal. Donc petit à petit, Moa Sound System s'est aussi ouvert à d'autres pays africains, ouais, en restant sur la base dont la finalité, en fait, c'est vraiment le développement et l'échange culturel, peu importe la région. Et donc on a des Belges, on a des Togolais, ouais, des Ivoiriens, vraiment ça s'élargit le plus possible.
Ouais. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur le Village des Possibles ? Qu'est-ce que vous proposez aux festivaliers ? Comment, c'est quoi l'objet avec lequel vous créez la rencontre justement et la discussion avec les festivaliers ?
Ouais, déjà, on a des horaires de percus qu'on joue.
D'accord, on fait des ateliers de percus.
Des ateliers de percus pour partager avec les festivaliers. Et on est aussi porteur de projet d'une radio au Sénégal avec 48 FM. Et on essaie aussi de chercher des collaborateurs en tant que déjà artistes et musiciens, d'ouvrir sur d'autres voies et aussi de partager notre expérience sur le projet aussi. Tantôt, on a participé sur un débat sur l'immigration. On a dû aussi donner notre point de vue en tant qu'immigrés parce que c'est une question aussi d'actualité de migrants. Et voilà, on est un peu sur tous les plans, quoi.
Donc là, aujourd'hui, vous avez une émission, enfin, le mercredi, je crois que c'est l'émission, non, sur 48 FM. Oui, oui. C'est quoi comme genre d'émission ? C'est musical et éditorial, c'est ça ? Vous parlez et vous envoyez du son ?
Alors, c'est une. À la base, l'émission, on met musique du monde. Hein. Il y a toutes sortes de musiques qui passent, mais à forte coloration reggae. Parce que on a un groupe de reggae à l'intérieur de Moa Sound System. On fait des sound systems. Donc, notre musique qu'on fait, à part la musique africaine qui est le folk ou l'afrobeat, on fait aussi du reggae. Donc, durant l'émission, on anime aussi des débats. Des fois, on pose des questions sur la vie sur d'autres questions, la drogue, ou bien sur d'autres questions aussi. Des fois, on partage souvent et on ouvre aussi les téléphones pour qu'on puisse partager.
D'accord, discuter sur des thématiques, que vous posez avant l'émission, en fait, que vous proposez avant l'émission. Oui, oui. Et donc, vous voulez monter une radio au Sénégal.
Au Sénégal, oui.
Alors, racontez-nous, c'est quoi cette histoire ?
Donc, c'est le projet Côte FM. Pourquoi Côte FM ? Parce qu'on voudrait que la radio soit vraiment installée à Nianing, qui est un petit village au Sénégal, qui se situe sur la côte à côté de l'océan. Donc, ça fait plus ou moins un an qu'on bosse sur le projet, donc sur la conception du projet avec 48 FM. Un de Moa Sound System s'est déjà rendu sur place un peu pour négocier avec les autorités locales, pour prendre un peu des contacts avec d'autres associations là-bas. Le but vraiment, c'est de tendre la radio vers une portée par la population. Donc c'est une radio à visée communautaire où on voudrait vraiment que chacun ait sa place et donner un peu la voix aux sans-voix ou à ceux qui sont un peu éloignés de ce système-là pour participer vraiment de plus en plus au processus démocratique. Voilà, parce que certains en sont éloignés. La radio au Sénégal est parfois en français. Tous ne maîtrisent pas le français.
Oui.
Et pourquoi la radio ? Parce qu'avec les informations qu'on a aussi, la radio a vraiment été assimilée à la culture locale.
Et tout à fait, en Afrique, c'est, voilà, c'est le média, quoi.
Parce qu'ils rejettent tous la télévision et l'Internet et ils le voient tous comme facteur de menace, hein, surtout à certaines valeurs aussi. Donc c'est
avec la
radio,
mondialisation et
c'est la radio qui est plus utilisée pour véhiculer, même pour les femmes aussi, pour leur travail dans leur groupement d'intérêt. Du groupement des femmes, ils ont tous une radio qui à la base leur sert d'information et de partage de leur projet. Donc la radio, elle est très bien accueillie au Sénégal.
Et le village que vous avez choisi, c'est parce qu'il y a des membres du collectif qui en sont originaires, j'imagine.
Oui, ça a été plus facile. C'est un choix parmi d'autres, mais en effet, des contacts étaient déjà là-bas. Il y avait déjà un réseau installé. Et donc, c'est là-bas que ça a été choisi. C'est une région un peu touristique aussi, avec les côtés positifs, mais aussi les côtés négatifs du tourisme. Donc, où il y a pas mal d'informations propagées qui n'est pas du tout adéquate. Donc c'est un peu essayer de remettre tout ça, d'utiliser la radio pour propager une information correcte qui vient vraiment des habitants.
Oui, et c'est surtout ces habitants-là qui vont gérer la radio.
D'accord.
Qui vont établir un programme, qui vont gérer l'émission comme côté technique, côté contenu, hein. Et personnel, ce sera la radio.
Donc il y a un gros travail de formation, transmission à faire.
Voilà.
Donc on est vraiment sur un projet de participation citoyenne, de participation démocratique et de faire entendre une autre voix. Oui. Nous, ça nous rappelle une histoire avec Sylvain qui est à la technique, puisqu'avec Sylvain, on a monté ensemble une radio qui s'appelle la Radio des Foyers, qui est à Paris, qui est une... Alors, c'est pas une radio communautaire, parce que les garçons, ils appellent pas ça une radio communautaire, c'est plutôt une radio citoyenne. On l'a montée dans un foyer de travailleurs migrants. Donc la plupart des bénévoles, en fait, il y en a une quinzaine, vingtaine maintenant, ils sont originaires du Sénégal, du Mali. Donc il y a un atelier par semaine. Avant, on faisait une émission par mois, toujours. Une émission mensuelle en direct sur Internet avec plein de partenaires à droite à gauche. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu un vrai engouement à s'accaparer en fait le média pour raconter les histoires qu'on peut pas raconter en fait de visu, qu'on peut pas raconter à ses parents quand on est un migrant et qu'on les a au bout du fil et qu'ils ont du mal à comprendre la difficulté de la vie sur le continent européen. Ouais. Et donc tous ces mots qui arrivent à se libérer plus facilement, en tout cas ça cartonne, donc ça veut dire qu'il y a peut-être de l'espoir pour vous aussi. Comment on peut vous aider? Est-ce qu'on doit, on doit vous libérer à moins le quart, puisque c'est votre collectif qui va animer et embarquer la parade qui part à 18h du Village des Possibles. Comment les auditeurs, les auditrices peuvent soutenir ou aider ce projet de radio citoyenne et communautaire au Sénégal?
On est contactable par email, morasansystem@outlook.com, c'est bien ça. Et sur Facebook aussi, il y a un projet Côte FM. Donc je crois que c'est par là.
Ou sur le site de 48 ouais, FM, ils auront toutes les informations qu'ils ont besoin par rapport à la radio Côte FM. Parce que déjà, il y a une page qui est dédiée spécialement pour la radio Côte FM.
Vous avez besoin de sous, j'imagine?
Oui.
Vous avez calculé à peu près combien
Le budget, on a déjà amené une partie du matériel, mais ce qui nous reste, on a autour de 7 000-8 000 euros encore. Hein.
Vous êtes sur une radio web ou sur une radio? Non, sur une radio sur les ondes, là-bas, j'imagine, plus. Hein.
Oui.
D'accord.
Et après, si on peut le partager aussi sur le web, pour aussi relayer l'information, parce qu'on a aussi une double objectif par rapport à cette radio. C'est nous, en tant que migrants d'ici, de raconter notre vie là-bas, pour qu'on puisse casser cette vision-là que l'Europe a par rapport à l'Afrique.
Tout à fait.
Voilà, c'est ça aussi un second objectif. C'est pour ça aussi, après qu'on l'a implanté sur les zones là-bas, de le mettre aussi sur le web. Comme ça, ce sera plus partageable.
Oui, et puis casser tous les préjugés qu'on peut avoir sur ce fameux continent européen qui serait si formidable.
Et vice-versa,
oui. Eh bien, on vous souhaite longue vie et bon
merci.
Courage.
Merci.
Et puis, merci d'aller animer cette parade à 18h qui va relancer ce dimanche du Festival Esperanza.
Merci
à bientôt.
Merci. À bientôt, merci.
Au revoir.
Après ce petit détour par le Sénégal, on va revenir en Europe. L'Europe qui a été bien marquée début janvier par les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher à Paris et l'opération antiterroriste qui avait suivi quelques jours plus tard à Verviers. Depuis cette date, on a vu apparaître beaucoup de militaires dans les rues, surtout à Bruxelles, à Anvers, un peu moins ailleurs, mais dans les grandes villes, ils sont très présents. C'est une première en Belgique ou une quasi-première? C'est une idée qui est soutenue par la plupart des forces politiques. Mais tout le monde n'est pas d'accord. On va en parler aujourd'hui avec le CNAPD, c'est la Coordination Nationale pour la Paix et la Démocratie. Donc Samuel, on a les festivaliers, on peut voir à l'entrée du festival quelques soldats qui les accueillent. Qu'est-ce qui se passe?
Voilà, tout à fait. Donc il y a des soldats qui sont là pour accueillir les festivals.
Alors, je vais juste te demander de parler très près du micro.
Ok, comme ça.
Ah, on a un petit souci de technique?
Non, c'est cool.
C'est cool, ouais, c'est super cool, tout est très cool.
Voilà, cool. Vas-y.
Ok, donc il y a un groupe d'impro qui est à l'entrée du festival, qui sont déguisés en militaires, et donc ils sensibilisent par l'humour à la présence des militaires dans des endroits totalement incongrus, que ce soit au festival ou dans les rues des grandes villes de Belgique.
Et qu'est-ce qu'ils disent aux festivaliers?
Bah, ils disent pas grand-chose en fait, ils nous font croire qu'ils sont en sécurité, puis en fait nous on est juste derrière pour sensibiliser sur la question des militaires dans la rue, le fait que la CNAPD a porté plainte contre cette présence-là, puisqu'elle est illégale. Donc voilà.
Tu peux préciser peut-être ça, en quoi elle est illégale?
Donc en fait la présence des militaires dans la rue est strictement encadrée par la loi, c'est-à-dire si on n'est pas censé jouer avec ce genre de déploiement avec à la légèreté, quoi. Donc en fait, la loi prévoit deux conditions pour que les militaires puissent être déployés en rue. La première, c'est qu'on soit dans un niveau de menace 4, qui est une menace imminente, et qu'il n'y ait plus assez de policiers fédéraux pour venir renforcer la police locale pour faire face au niveau de menace. Et en fait, on n'a jamais été au niveau de menace 4. La première fois où les militaires ont été déployés, juste après Charlie Hebdo, on était encore au niveau 2. Et deux semaines après, le gouvernement a élevé le niveau de la menace à 3, pour le redescendre à 2 il y a quelques semaines.
Alors, je ne sais pas comment les gens le ressentent dans les rues, mais au festival, les gens se sentent en sécurité avec ces soldats ?
Bon, avec ceux qui sont au festival, je pense, ouais, parce qu'avec des poireaux, ils sont totalement inoffensifs. En rue, quand on parle aux festivaliers ici, bon, on a fait d'autres festivals aussi, et puis c'est notre boulot un peu de parler avec les gens de cette problématique-là. Il faut avouer que les gens sont plutôt favorables à la présence des militaires en rue. Ouais. Ils estiment qu'il y a une menace, qu'il soit fabriqué ou pas, ils ont l'impression qu'elle est là. Probablement que la présence des militaires en rue alimente cette menace-là aussi. Et donc, ils trouvent que c'est légitime que les militaires soient là pour protéger la population. Quoi.
Justement, j'ai envie de te provoquer un peu, mais si je te dis, bah oui, mais finalement, c'est comme ça qu'on est en sécurité.
Ouais, bah,
qu'est-ce qu'il y a comme alternative ?
Non, je me lève et je t'en colline.
Qu'est-ce qu'il y a comme alternative ? Bon, en fait, ce qu'il faut constater, c'est qu'en France, depuis le début des années 90, il y a 18 000 militaires qui sont déployés dans les rues. Ça n'a pas empêché aucun attentat. L'alternative à la présence des militaires en rue, certains vous diront que c'est augmenter la présence policière. Bon, là, c'est un autre débat, puisque en fait, les militaires en rue, c'est pas du tout leur rôle de gérer l'ordre public. Donc, c'est plus le rôle de la police, de là, savoir s'il en faut plus ou pas. Mmh. Nous, on pense que non, mais certains pourraient penser que oui. Ça pourrait être une alternative pour certaines personnes. Pour nous, l'alternative, c'est travailler réellement à ce que les cerveaux ne soient plus perméables à des arguments extrémistes et que des gens n'aient plus envie de risquer d'engager leur corps dans une lutte contre la société qui l'entoure, quoi. Donc pour ça, il faut travailler à une justice qui soit équitable pour tous, avec une condition, enfin voilà, vraiment lutter contre toutes les formes d'exclusion qui existent ici en Belgique et un peu partout dans le monde.
Là, il y a un petit peu plus de travail, par contre.
Voilà, et donc du coup, c'est plus simple de mettre des militaires en rue, ouais. Mais par là, on empêche de se poser les vraies questions.
Mais tu penses qu'il faudrait banaliser le fait qu'il y ait, entre guillemets, des menaces, et alors se dire que vivre dans l'incertitude, c'est normal, pour pouvoir enlever les militaires ? On a beaucoup de pays où ils vivent dans un climat d'hostilité, et sans la présence militaire, ça serait pire.
Ouais, en fait, on banalise pas du tout la menace. Et c'est ça le problème, c'est que comme il y a des militaires en rue, on a l'impression qu'il y a une menace.
Il y a des
services de renseignement qui fonctionnent, c'est eux qui ont déjoué les dits attentats de Verviers. C'est la police qui est descendue pour neutraliser de manière très violente les personnes qui se trouvaient et qui allaient faire un attentat. Donc ces services-là fonctionnent, et c'est ces services-là qui analysent le niveau de menace. Et on n'a jamais été à un niveau de menace qui justifie la présence des militaires en rue. Donc c'est pas en fait le fait de banaliser la menace, c'est le fait de dire qu'il n'y a pas de menace et il ne faut pas croire qu'il y en a une parce que les militaires sont là, quoi.
Mais ne penses-tu pas que l'État doit se justifier du fait qu'effectivement il prend soin de ses citoyens ?
Mais pour nous, on se justifie pas avec des symboles aussi lourds que déployer des militaires en rue, quoi. Et donc, ils doivent se justifier. Bon, c'est probablement ça qui a expliqué la présence des militaires en rue, c'est le fait que voilà, il fallait faire quelque chose. Mais c'est justement de ne rien faire que de faire ça, puisque c'est une mesure totalement inefficace et contre-productive.
Bah, justement, en fait, si le gouvernement avait envie de prendre soin de ses citoyens, il me semble que sur les deux actions que vous menez là sur le village des possibles, il y a donc la question des soldats dans la rue, ouais. Et puis il y a la question des avions de chasse.
Oui, tout à fait.
Moi, ce que j'ai appris ce matin en passant sur votre stand avec Camille, c'est qu'un F-35 égale, l'achat d'un F-35 égale 294 944 familles approvisionnées en énergie verte. C'est-à-dire que si on n'achète pas cet avion, on peut approvisionner ce nombre de personnes en énergie verte. Également, on peut construire, par exemple, 12 maisons de repos ou un hôpital. Peut-être que pour prendre soin des gens, c'est pas mal aussi.
Voilà. Et là, c'est que pour un seul avion, et le gouvernement compte en acheter 40. Donc, c'est une dépense de 6 milliards d'euros. Plus 288 millions par an cash qu'ils doivent débourser pour l'entretien et la formation des militaires. Donc voilà, c'est beaucoup d'argent, surtout que le gouvernement nous répète tous les jours qu'il n'en a pas de l'argent et que tous les services publics sont réduits à leur plus simple expression. Mais à côté de ça, il y a une priorité apparemment pour eux, c'est de dépenser 6 milliards pour acheter des avions qui font la guerre et qui bombardent les territoires à l'extérieur.
Du coup, comment vous faites pour sensibiliser à la thématique les personnes sur le festival? Ce matin, j'ai pété des ballons avec des fléchettes, je me souviens.
En fait, donc on dit aux festivaliers qu'on a un accord avec Charles Michel, en fait, que lui, il est d'accord de faire ce jeu de fléchettes et que par ballon explosé, on retire un avion du carnet de commandes du gouvernement. Et en fait, quand le ballon est explosé, il y a des papiers qui sortent, et donc un avion équivaut à, comme tu l'as dit au début, 14 maisons de repos, 1140 logements sociaux, 190 000 bourses d'études universitaires.
Un hôpital.
Un hôpital, oui.
Ça marche bien, ça prend bien. J'imagine qu'ici, les gens sont déjà un peu sensibilisés à ces questions.
Ouais, celle-là, ça prend relativement bien. Bon, il y a toujours des réticences, mais bon, en fait, on a choisi cet angle de vue-là. Mais nous, ce qu'on veut dire surtout, c'est que faire la guerre dans le monde, ça apporte pas du tout la paix. Et donc c'est vrai qu'on indigne les gens sur cette dépense-là comme une dépense publique du gouvernement, mais on aimerait aussi que les gens soient indignés par le fait que ces avions bombardent les territoires, ils sont chargés de transporter les bombes nucléaires qui sont en Belgique, voilà, et c'est là-dessus qu'on veut réellement sensibiliser les gens et montrer que voilà, la guerre ne résout rien, quoi.
Vous avez une partie de plaidoyer politique aussi dans l'association, c'est-à-dire il y a l'action de sensibilisation et puis il y a une partie plaidoyer, j'imagine, vous travaillez avec les députés, ou vous essayez, comment ça s'organise ça, le travail au quotidien avec eux?
Pour Aux Sans Soldats, c'est très compliqué puisque on a plus ou moins tout le monde contre nous, mais pour les F-35, en fait, on travaille beaucoup avec les partis d'opposition pour essayer que eux arrivent à se mettre ensemble sur un point sur lequel ils sont tous opposés dans le renouvellement des avions de chasse. Donc il y en a quasiment aucun qui sont contre ces achats, ils sont quasiment tous pour. Mais par exemple, ils sont tous contre le fait que ces avions puissent perpétuer la capacité nucléaire. Donc là, pour le moment, c'est les aviateurs belges à bord des F-16 qui sont entraînés pour charger les bombes et transporter les bombes nucléaires et les faire exploser si jamais ils décident de le faire. Et les remplaçants des F-16 devront faire ça aussi. Donc par exemple, le point sur la capacité nucléaire, c'est un point sur lequel les partis d'opposition sont d'accord de faire du travail, quoi. Et donc nous, on va travailler avec eux là-dessus, mais à côté de ça, on a des prises de position qui vont beaucoup plus loin en s'opposant totalement à cet achat-là, quoi. Et on va organiser une manifestation le 24 avril prochain. Ça prend du temps de mobiliser sur cette thématique parce que normalement le gouvernement est censé prendre la décision formelle au mois de juin, quoi.
Ok. Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver un peu toute l'information dont tu nous parles? Donc, sur internet, j'imagine.
Ouais. Tout se trouve sur le site cnapd.be. On a une page Facebook également, mais les informations sont échangées plus ou moins de la même manière. Enfin, sur Facebook, c'est alimenté tous les jours, mais sur le site, toutes les informations utiles se trouvent.
D'accord.
Voilà, maintenant on va faire une petite pause, on va retourner au village des possibles et aller faire un petit tour au musée du capitalisme.
Ah d'accord, alors moi j'allais dire moi je serais pour qu'avant le musée du capitalisme, étant donné qu'on était en train de parler de guerre, on parle plutôt d'amour, et comme Azafa Vidane, il sera ce soir sur la scène.
Allez, c'est plus
côté
gay.
Jardin, c'est plus gay, love it or leave it, et on se retrouve juste après.
Long are the days when you're turning away from the reasons you strove. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind in your ears when you spin as you look for the sun. Loud are the skies as you thunder your cries when your prayers are sung. Hard as the floor as the waves pound the shore of your womb. Roll up your sleeve, it's hard to believe, but it's yours. Love it or leave it.
On est toujours sur radio.esperanza.be. Vous nous écoutez aussi sur le 106.2 à Fleuref et sur toutes les radios partenaires, Radio Campus, Panic, UFM, 48FM, Radio Sud et Run. De retour sur le plateau avec Paola de Intal, le mouvement de solidarité internationale anti-impérialiste. Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Très bien, et vous?
Je commence à être un petit peu fatiguée, moi, après 3 jours de festival. Ma voix est un peu plus rauque, d'ailleurs. C'est quoi Intal? Ça veut dire quoi exactement? Vous faites quoi?
Alors, Intal, c'est Action Internationale pour la Libération. Et on est un mouvement de bénévoles. On est plus de 700 maintenant. Le but, c'est de sensibiliser, organiser et mobiliser pour créer un contre-pouvoir dans notre pays.
Carrément, quoi.
Voilà. Et pouvoir faire entendre notre voix, voilà, qui n'est évidemment, on va dire, contestataire, mais qui remet en question pas mal de politiques. Et je pense que c'est vraiment, vraiment nécessaire.
Vous êtes très engagée sur la question du TTIP, il me semble.
Oui. Oui, mais de façon beaucoup plus large, les traités de libre-échange qui sont conclus tant par l'Union européenne que par les autres pays.
Comment ça s'organise? Je sais que vous avez un stand en collaboration avec M3M et ICS et avec un atelier autour du lien entre le libre-échange et le climat.
Oui.
Et l'intérêt qu'il y a à se mobiliser en Belgique autour de ces deux thématiques,
voilà.
C'est ça?
Voilà, exactement. C'est parce qu'en fait, on vient de lancer notre campagne Stoppons les multinationales, sauvons le climat. Et on fait le lien entre justement l'impact des traités de libre-échange qu'ils ont conclus avec d'autres pays, notamment la Colombie et le Pérou, et le changement climatique. Et on pense qu'il est très, très urgent de pouvoir réglementer les multinationales pour justement pas les laisser faire n'importe quoi. Avec n'importe qui. Et donc voilà, c'est autour de ça qu'on se mobilise pour l'instant. Alors on le fait avec M3M, donc Médecine pour le Tiers-Monde, et ICS, qui est Initiative Acova Socialista. Alors, M3M, c'est donc une ONG qui travaille autour du thème de la santé et beaucoup plus largement donc la souveraineté. Et alors, Initiative Acova Socialista, ils travaillent autour du Cuba, et Cuba présente pas mal d'alternatives, de politiques de développement qui ont été mises en place justement pour le développement durable. Donc voilà, et Intal, bah voilà, c'est les bénévoles mis au service de la campagne.
Du coup, pardon, excuse-moi Camille.
Peut-être tu peux juste donner quelques exemples rapidement. Tu parlais de Cuba et des politiques de développement durable. Est-ce qu'il y a deux ou trois?
Alors, je suis pas experte parce que moi, je suis pas d'ICS, mais en tous les cas, ce qu'on peut retenir, c'est par exemple écotourisme très très bien développé. Ouais. Un écotourisme hyper bien développé, ce qui est en matière aussi d'agriculture, puisque la canne à sucre, elle aussi, les politiques qui sont mises en place pour la culture de la canne à sucre sont mises dans un objectif de politique développement durable. Et donc voilà, c'est des alternatives qui sont présentes dans des pays en voie de développement, puisque Cuba est considéré comme tel. Et je pense que voilà, il y a des alternatives qui peuvent être puisées ailleurs pour être mises en place chez nous aussi. Donc c'est un des exemples sur Cuba, mais voilà.
Comment ça se décline du coup vos actions sur le village des possibles? Comment vous créez l'interaction avec les festivaliers? J'ai vu plein de sacs,
oui, voilà. Alors,
plein de couleurs chez vous.
En fait, on propose que le festivalier crée son propre sac activiste. Alors le sac activiste, c'est quoi? C'est un message justement autour du climat et des traités de libre-échange avec voilà, des fleurs, des arbres. Et donc c'est, voilà, ça c'est le message qu'on souhaite faire passer. Et donc il crée sur base un message, on va dire, politique ou interpellant en tous les cas, leur propre sac, et se trimballe. Et ça permet aussi de mettre tous les flyers qu'on reçoit dans le village des possibles. Donc ça a aussi une utilité. Et alors le sac est fair trade. Enfin voilà, on parle autour de cette thématique. Et c'est très très chouette parce que pendant que le festivalier crée son sac, elle a la possibilité justement d'entamer la discussion et d'échanger beaucoup.
T'as créé ton sac ce matin, Camille?
Non, j'ai pas pris le temps, mais j'aurai peut-être l'occasion de repasser dans la journée.
Il n'y a pas un espace panneau aussi? Non.
Si. Alors il y a un espace panneau. Donc on fait un quiz sur la thématique justement du développement durable à Cuba. Et quand on a réussi son quiz, on peut shotter dans des boîtes en conserve. Donc ça s'appelait toujours bien au festivalier.
Ça défoule.
Voilà, ça défoule bien. Et sinon, on a aussi des témoignages, parce qu'on donc dans le cadre de cette campagne, on a sollicité nos partenaires dans le sud et on leur a posé une question très simple qui est: est-ce que vous voyez qu'il y a un impact dans votre environnement suite au traité de libre-échange? Et on se rend compte qu'ils ont tous la même réponse, qui est évidemment par l'affirmatif, et que le fait de ne pas réguler les multinationales quand elles envahissent un marché, ça a des répercussions catastrophiques. Un simple exemple, en Colombie, l'année dernière, il y a plus de 77 000 kilos de riz qui ont dû être détruits parce que la semence qui avait été à la base base du riz n'était pas breveté. Donc voilà, c'est une aberration pour nous tous. Et voilà, ça, c'est les traités de libre-échange dans les pays du Sud. Et avec le TTIP, évidemment, c'est pour nous.
C'est ça, c'est pour nous. En tout cas, ça se défoule pas mal dans le village des possibles et ça se défoule aussi pas mal à Esperanza dans les cabines téléphoniques, les call shops. Je sais pas si vous avez vu, donc il y en a pas mal dans le festival. Et donc en fait, nous, à la radio, on récupère certains messages et ensuite, on en fait des montages. On écoute juste maintenant.
Vous avez des messages.
Oui, bonjour, c'est moi, la fille du 521. Je suis très jolie et au cas où, ma cabine, c'est le numéro 11. Au revoir, je vous aime.
Bonjour, je suis sortie pour passer l'audition de chant. Je vais commencer par le focalise A, O, I. Voilà, veuillez me recontacter si je suis prise. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est moi. Alors, ça va? Moi, je suis la danseuse. Si vous voulez me voir, tapez 11. Bye.
C'est calme. C'est calme. C'est calme partout et pourtant il y a de la musique. Et malgré tout ça, vous êtes beau. Les gens ont beau dire que vous êtes moche. Vous êtes beau. Ils sont jaloux. Je t'aime. Bonjour, ici la voix dans la cabine numéro 10. Bienvenue à Esperanza. Nous vous souhaitons un agréable festival.
Salut, y a personne au bout du fil, donc je te laisse un petit message. Bon festival, hein. Ciao, ciao.
Oui, bonjour. Je souhaitais laisser un message à la cabine 1, à qui je souhaite un bon festival. Au revoir.
Hello, how are you doing? Greetings from Lithuania. Good luck, enjoy the festival.
Bonjour, je vous laisse un message. Je suis ici, la cabine numéro 3. C'est pour parler avec la cabine numéro 8. Dommage qu'il n'y a personne. Ciao, ciao.
De l'amour, dans Esperanza et de l'amour.
Et de l'humour.
Dans des festivals de l'humour et de l'amour, mais et de l'amour aussi dans un certain festival, je crois, qui est en train de naître, qui est déjà né en République démocratique du Congo.
Exactement. On voyage pas mal aujourd'hui dans Possible or Not Possible. Après le Sénégal, on va partir voir au Congo, en RDC. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la ville de Goma. Si c'est le cas, ce n'était peut-être pas dans des termes très positifs. C'est une ville de l'est de la RDC et depuis plus de 20 ans, elle est témoin d'affrontements entre groupes rebelles et armées gouvernementales. C'est aussi connu parce que c'est là qu'on extrait de nombreux minerais précieux qui servent à fabriquer nos GSM et ordinateurs. Mais Goma, ce n'est pas que ça, c'est aussi une ville où on s'amuse, où on danse, où on festoie, comme à Esperanza. Et un peu comme à Floref, mais avec une touche congolaise, il s'y organise désormais un grand festival de musique. Car oui, la grande fête, le partage, à Goma aussi, c'est possible. Et on en parle avec Guillaume, l'un des responsables de l'événement. Donc ce festival, Guillaume, il s'appelle Amani. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu globalement?
Oui, merci beaucoup Camille. Merci aussi à la radio Esperanza de m'inviter. Comme il a dit, c'est un festival de musique et de danse qui a comme thème, comme slogan, chanter pour danser, danser pour la paix. Et c'est un festival qui a pour ambition et comme objectif de promouvoir la paix et la réconciliation par la culture, montrer les valeurs qu'il y a, les valeurs culturelles qu'il y a, et mettre un frein à tout ce qui est dit sur la région, la guerre, les violences et tout ça, sans pour autant mettre d'autres valeurs qui existent au niveau de la ville et au niveau de la région.
Alors, je crois que cette année, c'était que la deuxième édition, mais il y avait déjà pas mal de monde.
Oui, c'est la deuxième édition. Quand on a commencé les festivals, on se disait combien de personnes y aurait. C'est une ville de 1 500 000 habitants, donc une ville grande. Et c'est un festival qui se passe sur 3 jours avec 10 000 à 11 000 festivaliers par jour. Donc on a eu 30 000 festivaliers durant les 3 jours qui se sont passés. Et ça s'est passé super bien avec des artistes musiciens engagés, internationaux, aussi des artistes locaux. Et ça a donné des points très positifs au niveau de la population.
Vous avez déjà accueilli quelques têtes d'affiche?
Oui, on a accueilli Tiken Diafakoli, on a accueilli Habib Kouaté. Et c'était vraiment un grand succès. Les festivaliers ont adoré retrouver d'autres musiques africaines, retrouver les valeurs de la musique africaine qui sont ailleurs. Et ça a été vraiment une chouette... un moment très apprécié de la fête...
Les gens ont des retours positifs justement après, donc des moments comme ça.
Quand on a lancé la première édition, on s'est dit bon, on se lance dans une aventure en disant bon, on pourra arrêter si ça ne marchait pas. Et vu le retour qu'il y a eu, on s'est dit bon, on va à la deuxième édition parce que les gens nous disaient notre festival, c'est quand la seconde édition. On a dit bon, on va à la seconde. Et après la seconde, c'était le même retour. On s'est dit bon. On va alors pérenniser le festival, que ce soit un festival de tous les ans au niveau de la ville de Goma. Et voilà, là, on a maintenant des objectifs de professionnaliser le festival, de tirer les expériences d'ici et là. C'est pour cela que je suis ici à Esperanza, qui est un festival vraiment similaire avec les mêmes thématiques, qui a de grandes valeurs et on veut vraiment prendre de ces valeurs, voir comment apporter quelque chose de très constructif au niveau du festival Amani à Goma.
Alors, il faut savoir qu'Esperanza, c'est un festival qui a l'habitude de travailler un petit peu avec des festivals frères, on va dire. Il y a le Festdig au Burkina Faso, il y a Esperanza à Barcelone aussi, qui se fait au mois d'octobre. Et donc, peut-être des liens bientôt avec Amani. C'est en février, hein, souvent.
Voilà, oui, c'est en février. C'est à mi-février, pendant des vacances scolaires de février.
Et c'est pas trop difficile à organiser là-bas, au niveau infrastructure, toutes ces choses-là?
Oui, c'est vrai, au niveau infrastructure, ce n'est pas vraiment facile parce que tout ce qui est matériel technique et tout ça, ça ne vient pas du pays, ça vient du pays voisin, le Rwanda. Et alors, au niveau local, on regarde comment mettre des choses en place. Et puis, c'est la grande partie, c'est la grande vraiment chose de l'organisation, mettre un peu des infrastructures sur place, ce n'est pas du tout facile.
Et tous les gens qui viennent, ce sont des gens d'ici ou enfin des gens de la région de Goma ou il faut les loger? Comment ça s'organise?
Vraiment, le festivalier qui vient de la région, du Rwanda, du Burundi, ce sont vraiment Bujumbura qui est une ville voisine, Kigali et Gisenyi sont deux villes aussi voisines de la ville de Goma. Donc le festivalier vient vraiment de ces trois villes. Et les artistes aussi, c'est dans les trois villes qui viennent. Parce que comme je dis, les objectifs, c'est paix et réconciliation entre les peuples de la région. On prend les artistes de ces régions, les danseurs traditionnels de ces régions. Et tous viennent pour vraiment passer un moment d'échange, de danse, de fête.
Tout le monde vient pour s'amuser et voilà. Tout se passe bien.
Tout le monde vient s'amuser, tout se passe bien. Et puis il y a aussi un échange. Donc on a aussi un village qu'on appelle village humanitaire, Kwake Shobora. C'est en swahili qui signifie pour un lendemain meilleur, où les gens échangent avec des associations locales et internationales qui sont sur place, sur leur mission, sur leurs objectifs, parlant un peu de valeurs aussi qu'il faut mettre encore dans les organisations. Et c'est un moment aussi très important. C'est vraiment une partie très importante du festival parce qu'au moins les organisations, là, ils comprennent la population, ils comprennent qu'est-ce que la population veut, qu'est-ce que les gens veulent et comment les gens veulent transformer et changer leur vie au quotidien.
C'est un petit peu comme le village des possibles en bas d'Esperanza.
Voilà, c'est vraiment comme le village des possibles.
Est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent ici, de grandes différences entre le festival Esperanza et le festival à Goma, à Mani?
Oui, il y a des choses vraiment qui me surprennent. La première, c'est sur le plan artistique, c'est tout ce qui est la partie découverte. Parce qu'on compte vraiment aussi faire cette découvrir d'autres musiques, découvrir qu'au niveau de Goma, on découvre d'autres choses. Et dans le village de Possible, c'est tout ce qui est la récupération. Quand j'étais ici depuis mercredi et quand j'étais là, comment j'ai dit mais qu'est-ce qui va se passer dans ce village? Je me dis c'est le village du possible Et après, on voit comment ils ont récupéré le matériel et faire quelque chose d'extraordinaire.
C'est très joli. Hein.
C'est vraiment très, très joli. Ouais. Ça m'a vraiment surpris. Ouais.
On sait ici à Esperanza que la place au possible, elle a vraiment son importance et on essaye de voir les conséquences après que ça peut avoir dans la vie de tous les jours pour la population, mais même aussi pour les associations et les groupes et les organisations autour. Toi, tu constates aussi des vraies évolutions depuis qu'il y a le festival. Il s'est vraiment concrètement passé des choses, des changements dans la ville et dans les alentours.
On a commencé maintenant cette année par faire des questionnaires, des enquêtes par rapport à la, pour voir qu'est-ce qui a été comme retombé au niveau de la population après le festival. Mais quelques échanges, quelques personnes qui nous ont parlé, ils ont dit que, exemple des ONG, il y a des organisations internationales, à un moment ils ont dit on a fait un plan de travail pendant toute une année sans pour autant contacter la population. Mais grâce au village qui a été organisé au festival, on a senti qu'on était un peu en dehors des attentes et de la mission qu'on devait faire. Et ils m'avaient dit qu'ils vont revoir leur plan annuel d'organisation. Bon, je n'ai pas encore demandé comment ils ont revu, mais c'était un message fort qui m'a vraiment frappé. Je me suis dit, au moins ils ont senti qu'ils ont compris les besoins et ils ont bien échangé avec la population.
Et justement, ces besoins, ben, ils sont quand même toujours malheureusement financiers. Et il y a quand même une chose importante, hein, c'est que ton festival en RDC, c'est pas vraiment comme les festivals qu'on a l'habitude de parrainer ici à Esperanza, par exemple le Festig au Burkina. Dès le départ, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
Oui, c'est un grand festival. C'est vrai, quand on a commencé, c'est un budget de 300 000 dollars qui est presque 280 000 euros. Si je ne suis pas très bon en calcul.
C'est
mais...
ça, c'est ça.
Voilà, donc pour la première année, un festival débute avec 280 000 euros.
Oui, donc là, on a cherché de sponsors, ce qui est différent d'Esperanza, c'est un festival qui est pris en main par le festivalier lui-même. Mais nous, c'est difficile parce que la vie au niveau de la ville, elle est différente. Donc, et c'est un festival presque gratuit. Mais ce qui est important pour nous, c'est le fait de voir que les gens se sont appropriés le festival. Ils disent c'est notre festival. Et vu le coût d'achat, la vie à Goma, on a pris à 1 dollar, qui est 8 ou 9 centimes d'euros, pour que les gens participent activement au festival. Et alors là, ce sont certaines organisations internationales, il y a des banques, il y a les télécoms qui sponsorisent les festivals et en leur donnant nos valeurs en disant voilà, le festival a tel objectif, tel but et nous voulons vraiment que vous soyez partenaire du festival. Donc voilà comment on travaille là-dessus.
Et alors, on va dire que la plus grosse partie, elle est comme chez nous, utilisée pour le budget des artistes ou alors vous mettez des choses en particulier qui peut-être vont évoluer d'année en année ?
Le festival, quand il a été créé, parce qu'au début, on avait créé un centre culturel, un foyer culturel qui forme les jeunes en musique, art de la parole, danse traditionnelle. Et là, le but, c'est de regarder comment le centre, ça forme 450 jeunes par an, avec une seule salle qui doit recevoir les 400 jeunes et d'autres formations se passent dehors, donc s'il pleut, on arrête un peu la formation.
C'est pas facile.
Et on s'est dit, pour la deuxième édition, on a eu 10 000 dollars qu'on a pu mettre de côté après toute l'organisation. Et on s'est dit, il faudrait qu'on construise des infrastructures pour la formation parce qu'on veut vraiment aussi mettre en valeur la musique traditionnelle africaine. Mmh. On a senti qu'elle est en train d'être perdue, donc on perd une certaine identité. Et dans nos objectifs, c'est de la valoriser encore, cette identité. Et c'est un centre qui nous demande un grand budget de 60 000 dollars. Mais on s'est dit, bon, petit à petit, le festival, pour une première édition, 10 000 de côté, on cherche d'autres partenaires. Et peut-être pour de prochaines éditions, on pourra vraiment construire une infrastructure pour la continuité de ce centre culturel.
Et peut-être que dans les 450 jeunes que vous êtes en train de former, il y en a qui seront invités un jour sur ton festival, mais aussi peut-être sur le nôtre, et que ce sera le futur grand artiste africain de demain.
Oh, ça sera vraiment un rêve de voir que ça puisse se faire comme ça.
Eh bien, merci beaucoup. On va passer à un autre sujet, parce qu'en fait, on a Elodie spécialement avec nous.
Peut-être juste avant, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le festival Amani, vous pouvez aller jeter un œil au site internet, c'est amanifestival.com. C'est très facile à retenir.
Génial, merci.
Merci à vous.
Et alors là, on va changer la donne par rapport à l'émission habituelle, c'est-à-dire que là, Elodie va nous raconter une petite histoire radiophonique, puisqu'elle est allée rencontrer Alternimage, c'était hier, je crois.
Oui, tout à fait, je suis allée, j'ai erré pendant 3 jours dans le village des possibles. J'ai, comme toi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce qu'ils ont fait avec la récup des matériaux. J'ai vu la baleine se monter, tu sais, tout doucement. Et du coup, j'ai rencontré les workers sur un œil différent, puisque je les voyais plus en tant qu'intervenants, mais aussi en tant que participants. Et j'ai rencontré un groupe namurois, qui est un collectif Le Garage, qui vient d'ouvrir ses idées, plus sur la culture, mais plutôt axées sur le social, en créant le projet Alternimage, qui est un projet à but social, et qui a le but d'aider les gens à prendre soin d'eux. On parlait de prendre soin de ses citoyens, mais comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc le but, c'est de leur apporter des petits plaisirs, une manucure simple, une coiffure simple, échanger, et puis ça accompagne les gens qui sont en nouvelle vie ou qui sont en fin de vie. Mais je vous laisse découvrir parce que les gens que j'ai rencontrés sont tout à fait adorables.
Et juste, en fait, on va quitter nos invités maintenant. On a un reportage qui fait 8 minutes, nous on se retrouvera après juste pour clôturer l'antenne donc. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus.
Merci d'être venus.
Merci à vous.
Au revoir.
Mon petit lapin, j'aime tes grandes oreilles, tes petites quenottes et ta queue en pompon.
Mon petit lapin, à notre monde, possible, notre possible.
Mon petit lapin, tu es mon seul ami, tu ne me dis rien, mais je...
Je me trouve sur un stand de manucure gratuite dans le village des possibles. Comment est-ce possible? Qui es-tu?
Je m'appelle Zoé Baptiste et je suis étudiante en esthétique depuis 1 an. Et mon but premier, c'est de travailler dans la socio-esthétique, donc l'esthétique pour les femmes à cancer, les personnes malades, les grands brûlés, etc. Et pour atteindre ce but ultime, en fait, on a décidé de créer des ateliers, à la fois de 2 fois par semaine, 2 fois par mois, pour les personnes à précarité, les personnes qui ont besoin d'estime d'elles, les personnes en manque d'autosatisfaction. Et donc on aimerait bien leur faire des soins. On fait la manucure, on fait un soin visage, on fait du maquillage, et on fait des coiffures rapides, des mises en pli, etc. pour essayer qu'elles arrivent à le faire elles-mêmes dans l'avenir. Et qu'elles arrivent à être autonomes à ce niveau-là et à prendre soin d'elles pour remonter leur valorisation.
Et comment est-ce que tu as intégré ce projet? Comment est-ce que tu en as eu connaissance?
En fait, pour dire la vérité, ça fait longtemps que j'y pensais à ouvrir quelque chose et ma chère maman en a parlé à Étienne, qui a donc le garage, qui est un lieu social et culturel alternatif. Donc tout le monde peut venir proposer un projet et essayer de le créer. Et donc ma maman lui en a parlé, il était intéressé et il m'a proposé de me lancer. D'où Hugo, le coiffeur, a trouvé que c'était une formidable idée et a voulu me rejoindre pour commencer l'aventure.
Et donc ce projet que le garage mène, ça s'appelle Alter Image. Hein. Finalement, c'est un atelier social dans le but de remonter l'estime qu'ont les gens. Donc c'est pour les aider à se sortir de situations dites précaires, en retour de sevrage. Qu'est-ce que c'est, ou ça peut être une ménagère qui est seule avec ses enfants, qui n'a pas le temps. Quelle est la population que vous ciblez en dehors des gens qui ont des problèmes de fin de vie?
On cible à peu près tous les gens qui ont besoin d'estime, en fait. On essaye de cibler plus particulièrement les personnes précaires qui n'ont pas les moyens d'aller chez l'esthéticienne ou le coiffeur comme ils veulent, mais tout le monde est le bienvenu. On essaye vraiment que ça soit un échange culturel et social entre tout le monde.
Merci beaucoup, Zoé. Eh bien, pour ma part, j'ai besoin de me sentir un peu plus belle, un peu plus propre, donc je vais m'offrir une manucure et je vous retrouve tout à l'heure pour le coiffeur. Ah.
Un peu plus loin, sur le stand, après l'affiche Alternate Image et ce projet KissKissBankBank, où vous pouvez tous aller sur www.kisskissbankbank.com/projet/alterne-image. Enfin bref, vous le trouverez sur le site et on va vous en parler. Je retrouve Hugo, instigateur et coiffeur. Bonjour Hugo.
Bonjour. Alors voilà, en fait, nous, ici, moi ainsi que Zoé, en étant complémentaire, moi en coiffure et en esthétique, on est en train de mettre en place avec Étienne Mossien, propriétaire du garage, exploitant, je vais dire, jusqu'à présent, qui a plutôt développé des projets artistiques, culturels, et donc expo, peinture, voilà, avec certaines heures de permanence où on peut venir se désaltérer, évidemment. Et nous, ici, donc, on met en place un projet qui s'appelle Alterne Image, qui est en fait redonner confiance aux personnes qui ont perdu l'habitude de prendre soin d'eux, premièrement, qui sont dans des situations où parfois, ou même souvent, font passer d'autres projets financiers avant de mettre de l'argent chez le coiffeur, chez l'esthéticienne. Et voilà, donc avant tout, leur réapprendre à avoir confiance en eux et aussi un échange de savoir, un conseil, une écoute. Voilà.
C'est un beau projet. Et pourquoi être passé de l'artistique au social? Qu'est-ce qui a poussé Étienne, qui est en vadrouille, en recherche d'interview?
L'envie de changer un peu les choses. L'envie de rendre des choses accessibles à tout le monde, même ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Donc ça contribue, c'est la continuité de beaucoup de choses, plutôt à tendance sociale, et pour redonner des nouvelles habitudes, se dire qu'ensemble, si on met tous un petit peu, si on fait tous un petit effort à notre, par rapport à nos aptitudes, on peut apporter du bien. Voilà, dans le cadre, par exemple, d'un autre projet qui fait le Repair Café, où les personnes viennent, on répare certains objets défectueux, et plutôt que d'aller en racheter, voilà, on se donne un petit coup de main, en échangeant un autre coup de main.
Donc on est sur un retour au troc et finalement aux compétences des gens, parce que si j'ai compris, il n'y a pas que de la manucure, de l'esthétisme, mais un service de réparation. Alors, ceux qui voudraient partager leurs compétences et leur amour des personnes, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter? Qu'est-ce que vous recherchez en plus?
En gros, on n'a aucun profil, donc tout le monde a quelque chose, je pense, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau humain. Donc en fait, en clair, tout le monde est la bienvenue et on est toujours en recherche de personnes pour nous aider, pour donner des idées, parce qu'à 100 personnes, on a plus d'idées que dans 100 têtes, on a plus d'idées que dans 10, on va dire. Voilà.
Merci. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, parce que le garage, c'est nébuleux. Où est-ce qu'on peut le trouver? Sur Internet, géographiquement? Où est-ce qu'on peut venir se faire papouiller, échanger et partager un moment simple?
Alors en fait, ça se trouve juste au bord de la Sambre. Quand vous êtes dans la rue des Brasseurs, rue du Pont, vous continuez et c'est à hauteur du foyer Namurois. En fait, exactement juste en face de la crèche des Petits Pouillons qui se trouve place Maurice Servet. Voilà.
Eh bien, pas besoin d'explorateur de plans. Je pense que Hugo vous a tout fait.
Aussi, je vais rajouter qu'on a créé un site Facebook. Le garage, il suffit d'aller voir sur le garage, et aussi par rapport à notre projet qui s'appelle Alterne Image, vous pouvez aussi trouver des liens et quelques infos. C'est tout nouveau, donc c'est en pleine construction, donc voilà. Sans oublier le site KissKissBankBank, où bien évidemment, comme on est bénévole, on n'est pas contraire à un petit coup de main pour constituer tout ce qu'il faut pour commencer, quoi. Un minimum, il faut pas des tonnes de matériel, on a déjà un petit peu chacun, mais voilà, on a toujours besoin de brosses, de sèche-cheveux, voilà. En fait, le projet va vraiment être en place au mois de septembre, donc ça fait un mois qu'on a commencé le projet et là, ici, il nous reste un mois, donc voilà, c'est chouette.
C'est une chouette initiative. Alors, on vous retrouve sur Esperanza dans le village des possibles,
tout à
forcément.
Fait.
N'hésitez pas, venez, proposez vos compétences, prenez contact avec eux, faites-vous papouiller, ma foi. Moi, je vous dirai quoi plus tard. Et à bientôt, Hugo.
À bientôt.
Merci.
Merci beaucoup, bon festival.
Mon petit lapin, j'aime tes grandes oreilles, tes petites quenottes et ta queue en pompon.
Mon petit lapin, à notre monde, possible, notre possible.
Mon petit lapin, tu es mon seul ami, tu ne me dis rien, mais je sais que tu m'aimes.
Merci à Elodie de nous avoir fait entendre ces voix d'alterne image. Merci ma belle.
De rien.
Bon Camille, nos invités sont partis.
Possible or not possible pour 2015, c'est terminé, je crois.
C'est terminé, mais moi j'ai envie de dire que finalement, chaque année c'est possible, tout est possible. Tout, chaque jour de la vie est possible.
Tout est possible. C'était bien quand même.
C'était vachement bien, j'étais contente de faire ça avec toi cette année.
Super.
Je trouvais que c'était bien plus cadré que les autres années. C'était un peu foufou l'année dernière. Voilà, c'était une meilleure édition cette année au niveau radiophonique de Possible or not possible. Et on a reçu plein de gens en studio, donc c'était chouette aussi.
Plein de gens super intéressants. C'est clair.
Voilà, vous pourrez retrouver nos voix sur radio.esperanza.be à partir de lundi matin. Toutes les émissions seront en ligne, même si on a déjà une bonne partie grâce à la réunion collective qu'on a à 10h30 tous les matins. Il y en a déjà une bonne partie qui est en ligne. En tout cas, on vous fait des grosses bises, on vous souhaite plein d'espérance. Et comme disait l'autre, l'esperanza es el último que se pierde.
À l'année prochaine.
À l'année prochaine.